Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de À Propos. Vous êtes probablement comme moi, encore en train de vous remettre de la fête des tabernacles. Ce fut une fête merveilleuse, à bien des égards, l'une des meilleures que mon épouse et moi ayons jamais vécues. Mais nous sommes rentrés épuisés. Les assemblées, les dîners, la fraternisation chaque jour, plus les voyages vers deux sites ont eu raison de notre énergie. Et comme je me remets encore d'une opération de remplacement d'une valve cardiaque en juillet, vous comprendrez sans doute mon état de fatigue. Nous sommes rentrés chez nous le mercredi 15 octobre, après des arrangements de voyage difficiles. Nous avons visité deux sites pour la fête, Fort Myers et Myrtle Beach. Partir de Fort Myers vers Myrtle Beach n'a pas été facile. Nous avons passé 7 heures à l'aéroport à attendre notre vol de Fort Myers à Dallas, puis vers Myrtle Beach. Notre vol devait quitter Dallas à 12h30, mais nous ne sommes partis qu'à 20h30 ce soir-là. Deux avions différents avec des problèmes mécaniques, des bagages perdus, puis, enfin le départ. Nous sommes arrivés à Myrtle Beach fatigués, mais heureux d'être arrivés sains et saufs. Ensuite, lors de notre retour de Myrtle Beach à Dallas, il y a eu un autre problème mécanique et nous avons été retardés d'une heure, arrivant finalement à la maison vers 20h30 ce soir-là. C'était bon d'être à la maison. En dehors de nos difficultés avec les avions, la fête elle-même a été merveilleuse, d'excellents messages et une grande convivialité. J'ai été surpris par le nombre de personnes que nous connaissions depuis des années, surtout à Myrtle Beach. À Fort Myers, la fréquentation était de 80 à 90 personnes par jour. À Myrtle Beach, le pic a atteint 759. Les chiffres complets de la fête de cette année devraient être disponibles d'ici une semaine environ. D'après les premiers rapports, nous devrions de nouveau atteindre environ 12 000 personnes cette année, soit légèrement plus que l'an dernier. Avant de vous communiquer d'autres éléments concernant la fête, permettez-moi de vous présenter les nouvelles sur l'œuvre de l'Église, ainsi que sur ma santé personnelle. Voici maintenant une annonce spéciale. Plusieurs d'entre vous sont inscrits à l'Institut du Fondement, online. Ces cours se déroulent chaque année après la fête des tabernacles jusqu'aux fêtes de printemps. Cette année, la date de début est fixée au mercredi soir, 22 octobre. C'est le docteur Livy qui couvrira les livres d'Esdras et de Néhémie. Notez cela dans votre calendrier afin de ne manquer aucun des cours de cette année. Permettez-moi maintenant de vous informer sur ma santé. Cette année 2025 a démarré très fort pour moi et ce durant tout le premier semestre. En janvier, à Londres. En février, au Salvador. En mars, en Nouvelle-Zélande pour la retraite d'André Van Belcom. Puis, à Reno, pour rendre visite à Jim et Barbara Chapman. En avril, en Argentine. En avril également à Tampa, pour discuter du travail en Amérique latine avec Léon et Reba Walker. En mai à Boston pour les funérailles d'un vieil ami. En juin à Orlando pour la cérémonie commémorative de Dick Thompson. Et à Saint-Louis pour la retraite de John Foster. Puis, tous mes déplacements ont cessé fin juin, lorsque j'ai subi l'opération de remplacement d'une valve cardiaque le 1er juillet. Cela était inattendu, mais nécessaire, car je devais corriger une malformation congénitale de ma valve aortique qui ne comportait que deux feuillets, appelés bicuspides, au lieu des trois feuillets d'une valve normale. Je n'ai ni voyagé, ni pris la parole pendant les trois mois suivants, durant ma rééducation. La fête de cette année a été la première occasion de voyager après ces trois mois et ma première prise de parole lors des assemblées depuis juin. Pendant la fête cette année, je me suis exprimé 6 fois, en 2 semaines, ce qui représentait un certain effort, compte tenu de mon opération. Dans l'ensemble, je me suis senti vraiment bien, mais il y a eu quelques jours où j'étais un peu fatigué. Globalement, ce fut une fête des plus merveilleuses et ma santé n'a cessé de s'améliorer. En ce qui concerne l'Église, cette année a été des plus extraordinaires. Certainement d'un point de vue financier, il s'agit de notre meilleure année à ce jour. Passons maintenant à d'autres nouvelles concernant l'Église. Comme vous le savez, au milieu de la fête en Ouganda, pas moins de 6 policiers sont arrivés et ont emmené tous les membres rwandais ainsi que M. Miker au poste de police pour un interrogatoire. M. Miker est retourné à l'hôtel où se tenait la fête, mais les membres rwandais ont été retenus pendant la nuit. Le lendemain, on leur a dit que leurs papiers d'immigration n'étaient pas en règle et qu'ils devaient payer une amende, puis quitter le pays immédiatement. L'Église a donc payé l'amende de 1 500 $ et a assuré le transport des membres rwandais pour leur retour au pays. M. Miker s'est également rendu au Rwanda le même jour et a confirmé que les membres étaient bien arrivés chez eux en toute sécurité. Il s'est ensuite rendu en France, où il devait assister au reste de la fête. La situation au Rwanda est aujourd'hui très triste. Nous ne pouvons toujours pas nous réunir pour les assemblées, nulle part dans le pays, puisque l'Église n'y est pas officiellement enregistrée. Nous essayons depuis plusieurs mois de satisfaire à toutes les exigences du gouvernement pour l'enregistrement, mais sans succès. Mais nous travaillerons sur ce dossier jusqu'à ce que nous puissions être reconnus dans le pays. Je sais que les frères et sœurs ont fait preuve d'un bon état d'esprit, étant reconnaissants d'avoir pu assister à la moitié de la fête. Passons maintenant à notre nouveau bâtiment. Beaucoup de choses se sont passées pendant notre absence pour la fête. Le lundi 6 octobre, une remorque de chantier et des clôtures ont été installées sur le site de construction. Aucun travail n'a été effectué le mardi 7 octobre. Nous avons stipulé dans notre contrat qu'aucun travail ne doit être effectué le samedi, du coucher du soleil le vendredi au coucher du soleil le samedi, ni pendant aucun des jours saints. Ainsi, aucun travail n'a été réalisé le premier jour de la fête, ni le huitième jour de la fête, le dernier grand jour. Et bien entendu, cela s'applique également au sabbat. Les ouvriers ont repris le travail le mercredi 8 octobre. Et lorsque nous sommes rentrés chez nous et avons ouvert le bureau le vendredi 17 octobre, nous avons été stupéfaits de constater que tant de travail avait été accompli. Nous faisons réellement des progrès. À présent, l'estimation prévoit que le bâtiment sera achevé à la fin de l'été ou au début de l'automne 2026. À l'origine, nous espérions commencer la construction en avril de cette année, mais il y a eu une succession de retards jusqu'à ce mois d'octobre, lorsque nous avons effectivement commencé à déplacer la terre en préparation de la coulée des fondations. Bien que nous ayons été déçus par tous ces retards, cela a en réalité aidé l'Église, car nous avons bénéficié de plusieurs mois de revenus supplémentaires et nos réserves ont atteint leur niveau le plus élevé de notre histoire. Grâce à cela, nous disposons de fonds supplémentaires pour financer la construction du bâtiment. Nous ne prévoyons pas d'avoir de dette une fois le bâtiment achevé. C'est véritablement une bénédiction merveilleuse de la part de Dieu. Je vous prie de continuer à prier pour la réussite de la construction du bâtiment. Revenons maintenant à la fête des tabernacles. Une histoire remarquable s'est déroulée à Myrtle Beach pendant que nous y étions pour la seconde moitié de la fête. Permettez-moi de vous lire le compte-rendu que j'ai reçu de Tom Schultz, le coordinateur de la fête à Myrtle Beach. Rona Studar, membre de la congrégation de Birmingham, dans l'Alabama, a subi un accident vasculaire cérébral le jeudi 9 octobre, le troisième jour de la fête, alors qu'elle dînait avec des amis dans un restaurant à proximité. Elle a été immédiatement transportée à l'hôpital de Myrtle Beach, où l'on a découvert qu'elle avait un caillot de sang au cerveau. Les médecins ont pratiqué une intervention chirurgicale, au cours de laquelle ils ont pu retirer 90% du caillot. Elle a reçu un traitement médicamenteux destiné à dissoudre le reste. Elle a été ointe ce soir-là par Doug Johnson. Dès le lendemain, vendredi, Rona était déjà assise, elle pouvait parler et s'alimenter, avec une pleine mobilité de sa main et de son bras gauche. Dès dimanche, elle marchait. Elle a été autorisée à sortir de l'hôpital le lundi, 4 jours après son AVC, et elle a pu assister aux 2 assemblées. On ne pouvait pas deviner qu'elle avait eu un AVC. Le médecin ayant dit qu'elle ne pourrait pas conduire, un membre de Birmingham prévoyait déjà de la ramener chez elle. Il semble que Dieu ait effectivement entendu et exaucé nos prières pour Rona. Ceci provenait de Tom Schultz, le coordinateur de la fête à Myrtle Beach. J'ai moi-même passé environ 20 minutes à parler avec Rona pendant les assemblées du dernier grand jour. Bien que je n'ai pas reconnu son nom en entendant l'histoire, je me suis souvenu d'elle lorsque je l'ai vue aux assemblées. Elle est un membre de longue date du nord de l'Alabama. Elle m'a rappelé que je l'avais rencontrée à Trenton, en Alabama, lors de la retraite du Dr. Tom Kirkpatrick il y a plusieurs années. Comme M. Schultz l'a mentionné dans son compte-rendu, on ne pouvait même pas deviner qu'elle avait eu un accident vasculaire cérébral. Être témoin de cette histoire à Myrtle Beach a été très encourageant. Nous avons tous prié pour Rona. Une fois de plus, nous avons vu un exemple de ce que l'apôtre Jacques a écrit dans son chapitre 5, versets 14 à 16. Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en l'oignant huile au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Eh bien, ce sera tout pour le moment de notre côté. Je vous souhaite un sabbat paisible. La semaine prochaine, Degorchak, le directeur des opérations pour l'œuvre internationale, vous présentera les dernières nouvelles sur l'Église en dehors des États-Unis. Au revoir donc et à bientôt.